avec Frédéric Naon, donc procureur de la République ici à Épinal, pour parler de cette manifestation qui va se tenir vendredi. Une manifestation qui va proposer aux gens de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la justice. On en parlera tout à l'heure avec cette fameuse conférence. Il y a un thème qui se dégage comme tous les ans, ce sont les violences intrafamiliales. Tout d'abord, monsieur le procureur, comment on caractérise une violence intrafamiliale et surtout comment on se rend compte qu'on en est victime? Ça commence où, la violence intrafamiliale?
Alors, la violence intrafamiliale, classiquement, c'est une violence qui est physique. Hein, c'est effectivement le premier réflexe que l'on a. Mais il ne faut pas oublier les violences d'ordre psychologique, hein, qui sont également constitutifs de violence au sens de la loi. Alors, il y a les insultes, les humiliations, le harcèlement, hein, aussi, hein, qui peut caractériser des faits de violence. Les violences physiques, j'en ai parlé. Il y a les violences aussi de nature sexuelle, hein, qui rentrent également dans ces faits de violence intrafamiliale.
Ça veut dire qu'on ne doit pas, entre guillemets, attendre d'être touché. Si l'on est beaucoup insulté, beaucoup harcelé, c'est déjà une violence intrafamiliale.
Exactement.
Est-ce que on peut partir du principe que le territoire vosgien est plus ou moins touché que d'autres territoires par les violences intrafamiliales?
Alors, il faut être prudent sur les chiffres. Ce que l'on peut dire, c'est que l'année 2023, notamment, était marquée par une augmentation du nombre de procédures traitées. Cette augmentation, il faut aussi la remettre dans un contexte où les révélations de violences intrafamiliales sont facilitées, sont plus nombreuses. Donc, ce chiffre peut aussi être analysé de façon positive, hein, dans la mesure où on peut considérer, et c'est le cas, maintenant, les victimes dénoncent les faits tout de suite et les plaintes sont traitées immédiatement.
Lorsque vous êtes saisi d'un dossier de violence intrafamiliale, que se passe-t-il pour la victime et qu'est-ce qui se passe dans les bureaux ici au tribunal?
Alors, dès qu'il y a une plainte ou une dénonciation de violence, parce que la plainte n'est pas obligatoire, le procureur, le parquet, peut décider d'ouvrir une enquête, même s'il n'y a pas de plainte de la victime, à partir du moment où on a connaissance de faits de violence. Alors, dès qu'il y a cette connaissance-là, une enquête est ouverte. Alors, en flagrance ou en préliminaire, en fonction de la date des faits, hein, en flagrance si c'est très récent, et les investigations débutent par l'audition de la victime, sa prise en charge immédiate par des associations d'aide aux victimes, et une enquête qui va avoir pour but de caractériser, de confirmer les violences. Alors, ça sera un certificat médical, l'audition de témoins, et très rapidement, le placement en garde à vue de la personne mise en cause.
Est-ce qu'il y a une attention particulière de vos services ici au tribunal aux violences intrafamiliales par rapport à d'autres types de violences?
Tout à fait. Alors, ces violences sont traitées de façon prioritaire, alors que ce soit par les services de police et de gendarmerie, dès le dépôt de plainte, dès l'ouverture de l'enquête. Et ensuite, au niveau du parquet, la réponse, elle est extrêmement rapide. C'est-à-dire que j'ai donné comme instruction aux services d'enquête systématiquement, quand on a des éléments, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, pour caractériser l'infraction, de placer la personne mise en cause en garde à vue. Hein. Donc, du coup, la garde à vue implique nécessairement un compte-rendu immédiat au parquet, à la permanence, et une décision qui est prise au bout des 24 ou 48 heures de garde à vue.
Quelle est la proportion de faits confirmés entre la proportion de victimes qui se présentent et la proportion de victimes qui ont réellement été victimes?
Alors, j'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais on peut indiquer que entre 70 et 80% des faits qui sont dénoncés arrivent à entraîner derrière une réponse pénale et une condamnation ou une orientation vers une alternative aux poursuites. Mais en tout cas, une décision pénale qui est rendue. Il peut y arriver, effectivement, qu'il y ait encore des classements sans suite, hein, parce que faute de preuves, hein, tout simplement, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou parce que les faits sont prescrits. Ça peut arriver, des faits trop anciens. Il y a quand même une enquête, mais juridiquement, on ne peut pas les poursuivre.
Comment se passe le délai d'instruction? Est-ce que les faits moins graves, entre guillemets, si les faits moins graves existent, par rapport à des faits plus violents, comment ça se passe? Est-ce qu'on est traité plus vite si on a été victime d'une violence plus conséquente?
Quelle que soit la nature des violences et leur gravité, le délai est court. Hein. Il y a une filière rapide, hein, qui est mise en place. Que ce soit des violences psychologiques, une gifle ou un coup de couteau, la rapidité sera la même. Avec ce que je vous disais sur le placement en garde à vue, sur les actes d'investigation. Après, après, c'est la réponse pénale qui sera différente, hein, évidemment, puisqu'on tiendra compte des antécédents judiciaires, de la gravité des faits aussi, de fait, si la personne reconnaît les faits ou pas, par exemple.
Alors, question complémentaire, effectivement, sur la possibilité d'être témoin d'une violence intrafamiliale. Qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui pense être témoin de ce genre de scène? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les questions qu'elle doit se poser?
Cette question, elle est délicate parce que la victime, on parle de violence conjugale, donc est souvent majeure, est en capacité, en principe, de pouvoir déposer plainte, mais pas toujours. On est malheureusement sur beaucoup de cas de victimes qui sont sous l'emprise physique, psychologique, financière également de leur agresseur et qui vont pas oser déposer plainte ou qui sont même pas en capacité de se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie. Et c'est vrai que dans ces cas-là, tous les éléments d'information, hein, les signaux de violence intrafamiliale sont importants. Alors moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est effectivement de signaler les faits à la police ou à la gendarmerie pour indiquer une collègue de travail, un voisin, un proche aussi au niveau de la famille, parce que souvent on peut aussi avoir des violences qui sont constatées par un frère, par des parents, hein, il faut agir. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir ouvrir une enquête, permettre à la victime d'être protégée et de s'exprimer. Alors, il y a une obligation légale qui pèse sur un certain nombre de professionnels, hein, mais pour les témoins, j'allais dire classique, il n'y a pas d'obligation légale, si ce n'est que dans certains cas, on pourrait aussi caractériser des faits de non-assistance à personne en danger. Alors évidemment, avec toutes les nuances, hein, qu'il faut avoir pour apprécier cette infraction, mais quand même, on est au moins moralement dans ce domaine-là. Une personne qui constate des blessures, des coups, des bleus, Alors, on a déjà ce réflexe sur des mineurs, hein, qui sont victimes. Donc, il y a tout un circuit de signalement qui est déjà mis en place. Mais je pense qu'il faut avoir ce même réflexe au niveau professionnel ou familial. On n'est pas sur la délation. Hein, encore une fois, on est sur une protection et sur une assistance à une personne qui est en danger. Alors après, l'enquête aboutira ou pas, mais en tout cas, le nécessaire aura été fait pour protéger la victime.
Et pour protéger celui qui alerte, le lanceur d'alerte, est-ce qu'il y a une garantie d'anonymat? Comment être sûr que l'agresseur ne se retourne pas contre la personne qui dénonce?
Alors c'est aussi une question qui rend très délicate ces dénonciations. Il n'y a pas de protection particulière. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une dénonciation, elle peut pas être anonyme. Alors, si elle est anonyme, elle sera quand même vérifiée. Ça c'est vrai. Mais si on n'aura pas de témoignage du coup totalement fiable. Mais par contre, si effectivement quelqu'un écrit avec son nom, etc. Elle sera entendue. Hein. On lui demandera de confirmer sur un procès-verbal ce qu'elle a pu voir ou entendre ou constater.
Un mot sur le bracelet anti-rapprochement. C'est un dispositif qui est assez récent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça protège les victimes?
Tout à fait. Alors, on a finalement deux dispositifs. Le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement, il est décidé par le tribunal ou par un juge suite à une condamnation ou à un placement sous contrôle judiciaire. C'est un bracelet qui est physiquement sur la personne qui est mise en cause avec un périmètre interdit où il ne doit pas se rendre, hein. Et s'il se rend dans ce périmètre, eh bien ça se déclenche automatiquement. Ça fonctionne, mais il faut l'accord du condamné et l'accord de la victime. Donc parfois, on peut avoir des refus. Ce qui fonctionne par contre très bien, et là on a vraiment une augmentation du nombre de dispositifs, c'est le téléphone grave danger. C'est un dispositif qui est plus souple, qui est décidé par le parquet, et qui est donc un téléphone dédié, qui est remis à la victime de violence conjugale, ou violence infamiliale d'ailleurs, hein, qui va déclencher elle-même une alarme, hein, si elle est en contact avec son agresseur. Et voilà, donc c'est un dispositif qui est beaucoup plus souple et qui est en nette augmentation. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait seulement 6 téléphones grave danger. Actuellement, il y en a 24 hein, qui sont déployés. Alors, on a des plusieurs profils, mais voilà, pour vous citer un exemple récent, une victime qui s'est vue attribuer un téléphone grave danger à la sortie d'incarcération de son agresseur, hein, qui avait été condamné en comparution immédiate, qui ensuite a une interdiction de contact quand il sort de prison, mais du coup le téléphone est remis directement à la sortie de prison à la victime.
Alors 24 téléphones dans les Vosges, combien de Vosgiens équipés de bracelets anti-harcèlement, on a une idée, une fourchette?
Là, il y en a 7, hein, puisque alors, vous voyez voilà la différence, hein, puisque c'est un dispositif qui est beaucoup plus contraignant, alors, y compris pour la victime. Parce qu'en réalité, la victime a aussi un dispositif qui est sur elle en permanence pour pouvoir vérifier le périmètre que j'ai indiqué. Ce qui entraîne parfois des refus hein, de la victime qui préfère avoir le téléphone grave danger qui est plus souple.
Un mot de la conférence maintenant à laquelle vous allez participer vendredi matin dans le cadre de cette journée. On va y voir quoi, on va y entendre quoi et ça va permettre quoi?
Alors, cette conférence se veut vraiment une conférence alors d'information et puis une conférence interactive parce qu'il y aura des questions-réponses évidemment qui seront tout à fait possibles. Interviendront des magistrats du siège, donc des juges qui interviennent devant le tribunal correctionnel, mais également des juges d'affaires familiales hein, qui interviennent en matière civile, notamment les ordonnances de protection. Il y aura également le magistrat du parquet, Monsieur Perrin, qui est en charge du parquet des mineurs et des violences intrafamiliales, qui participera à la conférence, des avocats évidemment et des associations d'aide aux victimes. Hein, voilà, donc un panel assez large hein, de tous les acteurs qui interviennent. Alors j'oubliais évidemment la présence essentielle hein, des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui expliqueront aussi sur le terrain comment sont menées ces enquêtes avec les différents dispositifs qui sont mis en place. Alors, notamment, hein, puisque quand on parle de violences intrafamiliales, il y a les violences conjugales, mais également les violences sur les enfants. Alors, soit qu'il soit directement victime, soit qu'il soit témoin et donc victime indirecte des violences commises sur l'un des deux parents. Et voilà, donc il y a des dispositifs spécifiques aussi pour les prendre en charge.
Pourquoi c'est important d'expliquer aux gens comment tout ça fonctionne, quelles sont leurs possibilités de recours? C'est quoi l'idée de cette journée?
Alors, l'idée, c'est vraiment d'informer et par là même, évidemment, de prévenir. De prévenir les faits de violence et de permettre aussi une prise de conscience. Alors, qui existe maintenant de plus en plus, hein, du côté des victimes comme du côté des mises en cause. Mais voilà, ces journées, elles sont extrêmement importantes. Grâce aux médias aussi, hein, on parle de plus en plus de ces violences et c'est une très bonne chose. Donc voilà, c'est vraiment cet objectif d'information et de prévention.
Merci, monsieur le procureur.